Le temps pour nous de faire des détours assez significatifs, assez effrayants aussi. Et vous, à quoi ressemble votre route et vos détours? Laissez-nous un message sur le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68. Faites comme Lola aujourd'hui.
C'est le matin et je suis sur le ferry qui fait Ajaccio-Marseille. J'ai dormi dans le bateau. J'avais très peur de me faire avaler par la mer. Et ce matin, c'est splendide. L'horizon est à perte de vue.
France Inter, chacun sa route.
Le voyage d'aujourd'hui est de ces voyages dont on imagine que la littérature les invente. C'est un voyage dans le froid glacial qui mord les visages, un voyage aux multiples teintes, de la patience en sachant provoquer la chance. C'est un voyage où tout se passait formidablement bien et quand soudain... Notre invité travaillait pour une alliance française, il a fait des études de philosophie et vivait en Russie. Sur le livre de notre invité, dans les geôles de Sibérie, est écrit « Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire ». Mais nous allons quand même essayer de l'en faire parler, de l'enfer des prisons russes, de la vie qui bascule en un claquement de doigts, un matin où l'on a mis son plus beau t-shirt. Il a choisi, pour ouvrir ce chacun sa route en sa compagnie, de lire le texte d'un Français au nom russe, Vladimir Yankelevitch.
Élodie Font. Chacun sa route sur France Inter.
La tentation de l'aventure est donc la tentation typique. L'homme, passionné par la passionnante insécurité de l'aventure, par le passionnant aléa de l'avenir, est dans la situation passionnelle de ces amants frénétiques qui ne peuvent ni vivre ensemble, ni vivre séparés. Ensemble, ils se battent, ils ne se supportent pas. Séparés, ils languissent et aspirent de nouveau à leur symbiose confuse. Ils s'adorent et se détestent l'un l'autre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, dit-on. En réalité, ils sauraient bien ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent est impossible, irréalisable et plus qu'humain. Ce n'est pas la volonté qui est contradictoire, ce sont les choses voulues qui se contredisent. L'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus.
Bonjour Johann Barbereau.
Bonjour.
Quel est cet extrait ?
Alors c'est un extrait d'un livre de Vladimir Yankelevitch, vous l'avez dit, qui s'intitule « L'aventure, l'ennui, le sérieux ».
Et pourquoi voilà. Avoir choisi cet extrait-là pour débuter notre conversation ?
Alors il y en avait plein de possibles, mais c'est une des références souterraines qui passent. Je me suis rendu compte en fait, je le savais en l'écrivant, que j'ai piqué cette dernière phrase à Yankelevitch, l'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. Je l'ai reprise à peu près comme ça, mais en me l'attribuant sans rien en dire au milieu du livre. Alors je me suis dit que c'était le moment de
profiter de France Inter
de l'avouer, de rendre un petit hommage à Yankelevitch, le philosophe.
Vous adorez et vous détestez l'aventurier en vous, Johann Barbereau ?
Non, c'est pas exactement ça. Alors ce que dit Yankelevitch là, c'est que l'aventure véritable, elle arrive à ce moment seuil entre un désir très fort de la vivre, cette aventure, mais aussi une crainte réelle. Et sans la crainte, la crainte définitive, c'est ce que dit Yankelevitch, hein, c'est la crainte de la mort en fait. Sans cet enjeu-là l'aventure n'est rien. Voilà ce qu'il dit. L'aventure, c'est... Alors, Yankelevitch, il est connu aussi pour ce concept qu'il a développé, le presque rien. Donc le presque rien, c'est quelque chose qui est entre le rien, justement, et quelque chose. C'est une notion seuil. Et ben l'aventure, pour lui, c'est la même chose. Elle n'existe que si on est entre un désir fort d'aventure et puis une crainte terrible. Entre, dit-il aussi, le jeu et le sérieux. Il faut ces deux choses-là pour que l'aventure existe.
Et effectivement, ça ressemble à votre histoire que vous allez nous raconter jusqu'à 15h.
Ça me parle, sa manière de...
Oui, vous allez comprendre pourquoi, vous qui nous écoutez. Vous êtes né à Nantes, Johann Barbereau, il y a un peu plus de 40 ans. À partir de quel moment vous vous intéressez à la Russie ?
Très tôt, enfin très tôt, à l'adolescence, je pense, à l'âge où, quand on est un grand lecteur, on tombe sur les grands classiques russes. On tombe sur Dostoïevski, sur Tchekhov, sur Gogol, et puis un peu plus tard sur Bulgakov, qui est une référence constante dans mon livre. Et donc c'est à ce moment-là, vers 16-17 ans, quand je lis beaucoup et je me mets à lire beaucoup les Russes.
Et vous vous dites « je vais y aller »
Pas forcément, non. Pas immédiatement, mais c'est venu, comme souvent dans l'existence, c'est un mélange de désir et de hasard. À ce moment-là, au moment où je pars en Russie,
en
2003, voilà, je suis en train d'écrire une thèse sur l'esthétique pragmatiste de John Dewey, donc autrement dit la philosophie américaine. Donc là, je suis vraiment à l'ouest. Et puis, je veux quitter ce monde-là et surtout l'université française qui ne me correspond pas. Et puis là, mon tropisme vers l'Est ressurgit. Et puis, il se trouve qu'il y a une possibilité là, qui s'offre à moi de partir à Rostov-sur-le-Don et j'y vais.
Rostov-sur-le-Don, on y va justement avec vous. C'est environ à 1000 km au sud de Moscou.
Oui.
Dans une alliance française.
Oui, c'est ça. C'est comme ça que je pars en Russie la première fois. Les alliances françaises sont en train de se constituer en Russie au début des années 2000. Et puis, il y a cette possibilité. On cherche quelqu'un pour s'occuper d'une programmation culturelle, donner un peu quelques cours de français. Et voilà, ça me va, j'y vais.
La Russie, ça vous touche tout de suite ?
Ben oui, parce que pour moi, alors Rostov-sur-le-Don, c'est les Cosaques de Tolstoï. Mais c'est surtout, en fait, je sais une chose, c'est qu'un de mes auteurs russe culte, disons celui dont je me sens très proche, c'est Tchekhov. Et Tchekhov, c'est l'homme de Taganrog. Taganrog, c'est la petite ville qui se trouve à côté de Rostov-sur-le-Don. Et quand je sais que je vais aller à Rostov, je sais surtout que je vais aller très vite à Taganrog, sur les traces de Tchekhov.
Ça ressemble à quoi ?
La ville de Taganrog ?
Oui.
Eh bien, alors, quand je la découvre, moi, au début des années 2000, c'est une petite ville qui, dans mes fantasmes, n'a pas beaucoup bougé depuis Tchekhov. Alors, c'est dans mes fantasmes, parce que, quand même, elle a bougé, mais il y a des choses, quand même, qu'on retrouve. Il y a pas de chevaux, pas que j'ai exagéré, encore que, on peut presque en croiser quelques-uns. Mais surtout la structure de la ville, les maisons, il y a des vieilles maisons du 19e qui sont encore là, délabrées. Donc il y a le monde de Tchekhov au moment où lui le décrivait comme s'écroulant en fait dans la cerisée, bah je peux le toucher des doigts là. Je me dis que je vois des hommes qui sortent de Tchekhov. Voilà, l'homme à l'étui, qui est une des nouvelles fortes de Tchekhov, bah je le vois là. Il est là devant moi, ce petit fonctionnaire russe étriqué. Voilà ce que je vois à Taganrog. Ce que je vois, j'en parle un petit peu dans les Geôles de Sibérie, c'est que des choses que j'ai lues dans les livres, je les vis. Des goûts, par exemple. Alors les concombres marinés, décrits dans Tchekhov, dans plein de livres russes, en réalité, parce que ça fait partie de ce qui accompagne la vodka, le petit concombre mariné. Et ben là, je le goûte. Je le goûte après l'avoir goûté en littérature. Voilà.
Et ça a le même goût.
C'est un goût différent, évidemment. Mais c'est une espèce de prolongation, c'est naturel, en fait. Je goûte le kvass. Vous connaissez le kvass ?
Non.
C'est une boisson fermentée, fabriquée à base de fermentation de céréales, très peu alcoolisée, mais on trouve des marchands de kvass un peu partout dans les rues de Taganrog, quand je découvre justement cette ville. Et le kvass, et ben moi je l'ai découvert dans Gogol. Il parle du kvass et de comment on le fabrique, et là je le découvre, mais incroyable, en fait le kvass ça existe. Ça existe vraiment, et on peut le goûter.
Et vous revenez en 2012, on fait un bond dans le temps, vous êtes revenu en France entre-temps, et en 2012, vous revenez pour diriger l'une des 13 alliances françaises en Russie, à, vous allez dire le nom de cette ville que je n'arrive pas à prononcer.
À Irkoutsk,
voilà.
Près du lac Baïkal.
Exactement, en Sibérie, c'est beau ?
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ouais, c'est magnifique. Alors quand je découvre cette ville, bon bah là je la décris un peu.
On débute le livre avec une scène qui est incroyable.
Au lac Baïkal, ouais.
Oui, où il fait moins 44 degrés et vous décrivez-la cette scène parce que c'est quand même assez impressionnant.
Je sais pas, il faudrait la lire, mais je vais décrire la scène. Et un petit peu après dans le livre, je décris comment je découvre la ville au mois de janvier, prise dans la glace. Ma première image de la ville d'Irkoutsk. C'est une ville vraiment qui est prise dans la glace. Et c'est ça qui m'interpelle. Tout est bleu, blanc. La neige est un peu comme de l'albâtre qui crisse. Et je vois un décor, ouais, un décor de conte russe. Et puis, alors, le livre, oui, j'ai choisi de l'ouvrir par une expérience que je vais vivre un peu plus tard, qui est le moment où on célèbre au début du mois de janvier en Russie le baptême du Christ dans le Jourdain. Et donc ce jour-là, les Russes orthodoxes croyants plongent dans le premier fleuve ou le premier lac qu'il y a à côté d'eux, sauf qu'on est en janvier et que quand c'est en Sibérie, c'est la période la plus froide. Donc on creuse la glace et on plonge. Et je décris cette expérience de plonger dans une eau à 0 degré. Mais le plus dur, c'est pas tellement d'y plonger, c'est de ressortir quand il fait moins 44. Et là, on sent la glace prendre sur le corps. On ne sent plus ses membres, ni pieds, ni mains.
Littéralement, vous vous congelez.
Exactement. On congèle, on
congèle sur place.
On congèle sur place et puis on quand même, on part vite se réchauffer parce qu'on veut rester en vie. Puisque l'espérance de vie à cette température-là, nue ou quasi, enfin, sortant du bain, est courte.
À ce moment-là, Johann Barbero, vous vivez la grande vie, on peut dire une vie de paillettes, où vous bougez énormément. Vous avez une vie qui sort de l'ordinaire.
Oui, oui, oui. Alors, pas uniquement de paillettes, mais ça fait...
De jeux, en tout cas. Ça fait partie de jeux.
Oui, ça fait partie de mes fonctions de directeur d'Alliance Française, de fréquenter le maire de la ville, les responsables culturels, les gens un peu influents dans la ville. Et c'est ce qu'on me demande, en fait, de me rapprocher de ces gens-là pour les allier à ma cause, la propagation de la langue et de la culture française. Donc, je suis en Russie, dans un pays qui est beaucoup moins francophone qu'il l'a été au 18e et 19e siècle, mais qui est très francophile encore. Donc c'est très agréable en fait d'être un Français en Sibérie, parce que beaucoup de gens ont envie de nouer des liens avec moi. Et donc je rencontre des gens. Alors il y a le côté paillette, un peu diplomatie culturelle, mais il y a aussi mes amis du marché, par exemple une babouchka du marché que je rencontre et avec laquelle je lis des liens d'amitié dont je parle un petit peu. Voilà, j'ai l'impression surtout de vivre une vie où je traverse un peu les classes, les couches sociales et puis les âges. Je peux me lier d'amitié avec quelqu'un qui a 40 ans de différence avec moi, et évidemment que ça existe, c'est possible, mais moi j'ai l'impression que tout cela est extrêmement facile à ce moment-là. Je suis un peu dans mon rêve russe.
Voilà, c'est ça. Vous vivez une vie, en tout cas, qui vous ressemble, dans laquelle vous êtes bien. Et puis, à ce moment-là, vous êtes marié à une Russe. Vous avez une petite fille avec elle. Le froid s'infiltre dans votre mariage, hein, également. Et en parallèle, quelques indices potentiels d'un danger imminent apparaissent. Vous écrivez « J'étais aveugle et sourd. Vous pensez déceler uniquement les traces sinistres d'un folklore d'un autre temps. C'est impensable de se dire qu'on est réellement une cible. Qu'est-ce qui rend aussi peu concevable, justement, le fait d'être une cible ?»
Eh bien, le fait d'être entouré d'amis russes et de vivre dans l'amitié. Moi, je suis là pour faire vivre l'amitié franco-russe. Et donc, de temps en temps, voilà, le passage que vous avez cité là, c'est quand je me rends compte que je peux être suivi, qu'il y a des tentatives d'intimidation. Mais ça fait à ce moment-là des années que je vis en Russie, donc j'ai l'habitude en fait de ça, d'être peut-être un peu surveillé, regardé. Et pour moi, en effet, c'est les traces du folklore d'un autre temps. C'est des gens qui sont payés, qui doivent justifier d'un salaire, donc ils m'observent. Mais je me dis bon, voilà, c'est ça, le type du FSB qui vient se renseigner sur moi. Donc FSB, les successeurs du KGB. C'est pas dangereux en fait. Et tous les Français qui ont vécu un peu longtemps en Russie ont tous des histoires un peu rocambolesques à raconter d'un type un peu louche qui vient leur poser des questions, et puis ça donne souvent, plus souvent, des scènes comiques, paradoxalement. Donc je suis pas inquiet à ce moment-là.
Sauf que la vôtre va être un peu plus rocambolesque que la moyenne. Un jour, vous déchargez la voiture de votre femme, qui revient de France. Vous vous retrouvez dans un couloir de l'immeuble.
Oui, j'arrive même chez moi, en fait, hein, j'ouvre la porte.
Ouais, vous êtes en train de rentrer chez vous, et là, à ce moment-là, vous tombez sur plusieurs hommes.
Oui, alors ils sont dans mon dos en fait. Je suis descendu chercher ma femme, ma fille, et dans l'appartement, c'est la scène que je décris, oui, juste après la première scène qu'on vient de décrire dans le livre, ouais. Et là, je vois deux hommes surgir, cagoulés, Et puis derrière eux, il y en a encore 8. Et puis là, bah, je suis violemment arrêté par des hommes qui sont en civil, cagoulés, en noir principalement. Il y en a un qui filme. Et je comprends pas du tout au début. Je comprends pas du tout par qui je suis arrêté. Je pense pas forcément d'ailleurs aux forces de police à ce moment-là. Je me dis que c'est peut-être un enlèvement crapuleux. Je comprends pas. On me met une cagoule sur la tête et je suis embarqué dans un véhicule vers une destination inconnue.
Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Me vient dans le livre, je le dis, me vient bêtement une chanson de Philippe Catherine. Je suis dans la merde et je vous emmerde. Alors non, je cite, oui, dans le livre, je cite le début, c'est « J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. » Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, il y a des choses bizarres comme ça qui viennent dans ce genre de circonstances. Il y a ce truc-là qui vient me trotter dans la tête, et puis surtout, ce qui se passe, et je me dis, il va falloir être très très attentif maintenant. Donc en fait, je me mets dans une espèce de position animale que je décris plusieurs fois dans le livre, où je suis aux aguets, à l'affût du moindre indice, de la moindre chose qui peut se passer, parce que je comprends que là il y a urgence vitale, donc il va falloir utiliser toutes les compétences et tout ce que j'ai sous la main pour m'en sortir, parce que je comprends que c'est grave évidemment.
Et débute alors en un claquement de doigts votre vie d'après, Johann Barbereau. Des cow-boys, mais pas n'importe lesquels. Les Finlandais du groupe Leningrad Cowboys reprennent avec Les Chœurs de l'Armée Rouge, un grand classique. Happy Together sur France Inter.
Think about the girl you love and hope you die so happy together.
If I should call you up in this time and you say you belong to me and use my mind, imagine how the world would be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it has to be the only one for me. It's you and you for me, so happy together.
Johann Barbereau, auteur de Dans les geôles de Sibérie, est notre invité, chacun sa route, jusqu'à 15h sur France Inter. On le racontait il y a quelques minutes, vous dirigez une alliance française en Sibérie, quand soudain des hommes costauds débarquent et vous emmènent, a priori vous n'êtes pas trop happy together, vous ne savez absolument rien du lieu où vous allez, vous croyez encore que cela ne va pas forcément durer. À partir de quand vous comprenez que si, ça va durer ?
Euh, c'est compliqué, mais c'est le moment. Bah, je pense que c'est quand viennent les accusations, en fait. Quand je comprends de quoi je suis accusé. Donc là, on peut le dire maintenant. On m'accuse de diffusion de documents pédopornographiques. Et puis, quelques semaines plus tard, du viol de ma propre fille. Et donc là, je comprends que je suis dans ce qu'on appelle en Russie un compromat. Donc des gens veulent se débarrasser de moi en utilisant une technique éprouvée par le KGB qu'on appelle compromat. Il s'agit de compromettre quelqu'un, soit pour s'emparer de son commerce si c'est un businessman, l'écarter si c'est un adversaire politique, pour écarter un journaliste, le discréditer, voilà. Et je comprends que c'est ça, sauf que ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Parce que moi, je suis dans l'ambiance de ce qu'on vient d'écouter là, une espèce de douce folie de l'Est, avec un mélange culturel aussi. En fait, c'est ça. Je suis entre des francophones, des anglophones, des russophones. Tout ça se mélange joyeusement. Et c'est ça. Je comprends pas pourquoi, mais je comprends par contre que c'est définitif, en fait. Quand vous êtes accusé, quand il y a ce type d'accusation qui pèse sur vous et qui est faite pour glacer, vous voyez, c'est le mot pédophilie. C'est fait pour écarter tout soutien, déjà. Et puis, c'est un message très clair. Ça veut dire, on va se débarrasser de vous et on va aller jusqu'au bout. Sachant que la justice russe condamne à 99,9%. C'est ça, le résultat de... et cette statistique, je la connais très bien. Donc je vois un peu ce qui m'attend, si vous voulez, dans l'actualité récente. Là, je ne sais pas si vos auditeurs ont suivi ça. Il y a un historien russe qui a été condamné, ouais, Yuri Dmitriev, pour donc un historien du goulag qui gêne très fort les autorités pour des faits exactement la même technique. Hein, on l'accuse de viol sur sa propre fille. Finalement, on le condamne pour quelques années, mais on s'est débarrassé de lui après, avec le temps. Passer en prison, l'arrestation, la réputation, c'est... Voilà.
Oui, c'est fini.
C'est fini. Alors non, parce que lui, il a un soutien massif, et moi aussi, ça a été ma chance, en fait. Non, c'est pas fini, parce qu'on est soutenu, en fait. C'est ça une des...
Une des clés de ce que vous voulez raconter, c'est
oui,
que...
Oui, c'est ça, ce que j'ai voulu dire, rendre hommage à mes amis français et russes, hein, parce que c'est grâce à des Russes que je m'en suis sorti. Alors, on va peut-être y venir un peu plus tard, oui. Je vais pas aller trop vite.
Mais on va quand même avancer dans le temps, juste pour se demander, est-ce que vous avez compris à un moment, justement, qu'est-ce qu'il voulait de vous?
C'est un des enjeux du livre, c'est ça, c'est une des questions que j'ai voulu poser dans ce livre, sans avoir de réponse définitive. Ce que j'essaye de... Moi, mon hypothèse aujourd'hui, ce qui me semble la plus sérieuse, c'est une conjonction de facteurs, et c'est moins romanesque, en fait, que d'avoir une histoire très claire à raconter, comme celle que certains journaux ont raconté, que j'aurais été un espion, par exemple. Sous couverture de mon poste, du poste de directeur d'Alliance, j'aurais mené des activités d'officier de renseignement. Il y avait une autre thèse qui disait que j'avais eu une liaison avec la femme du maire qui se serait vengée. J'aurais adoré raconter ça dans ce livre. Mais non, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une explication simple, c'est plutôt une conjonction de facteurs. C'est un moment où les relations franco-russes sont au plus mal après le refus de la France devant les navires Mistral. Donc on est en plein dans la crise ukrainienne, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, hein, la crise ukrainienne. Localement, le maire, dont je suis très proche, mais sans coucher avec sa femme, est un opposant à Poutine. Et donc, bon, on me le reproche d'être trop... Ouais, c'est ça. Et puis, moi-même, je suis en train de me séparer de ma femme. Donc, tous ces facteurs, en fait, font que les gens que j'ai sur le dos se disent... c'est surtout l'histoire du serviteur zélé, en fait. Hein, c'est ça que j'essaye de brosser à rapide trait dans le livre. Le chef du FSB local a intérêt, pour sa propre carrière, à se faire le français, le Franzus de la ville. Et puis il se dit qu'il peut y aller parce qu'il y a la crise ukrainienne, que les Français commencent à nous courir un peu sur le système. Et puis en plus, il est en train de se séparer de sa femme, ce Français, donc on va pouvoir utiliser la situation. C'est une analyse, en fait, que fait le FSB. Ce qui paraissait complètement incroyable au départ, s'attaquer à un Français employé du ministère des Affaires étrangères arrive.
Continuons donc à suivre votre histoire, Johan Barbereau. Il y a un interrogatoire musclé, violent, où l'on vous fait comprendre que l'on vous accuse de pédophilie. Et puis ensuite, vous atterrissez en prison, en Sibérie. Évidemment, ça fait quand même un peu froid dans le dos. J'imagine que c'est quand même difficile de sortir de la sidération. Et pourtant, à la lecture de votre livre, on a l'impression que vous observez, que vous vous adaptez, que vous ne sombrez pas et que vous ne perdez pas complètement pied.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quelque chose, je me répète un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre du réflexe animal. Je décrirais ça comme ça. Le réflexe de survie. Donc, être aux aguets, en effet, s'adapter, ouais, c'est le maître mot. Parce que c'est une question de survie, en fait. Hein, c'est ça, soit... s'écrouler tout de suite, mais c'est ce que me dit l'avocat russe qui arrive à accéder à moi en prison. Il me dit la prison russe n'est pas un lieu pour les faibles. Donc là, tu dois choisir maintenant. Et il va falloir se battre, en fait. C'est tout. Ne pas se laisser aller, ne pas sombrer.
Et vous parlez beaucoup d'une citadelle intérieure dans laquelle vous vous réfugiez. En tout cas, vous y faites beaucoup référence. C'était quoi? Vous aviez l'impression de fermer des fenêtres, des portes, d'être uniquement dans un monde clos qui était votre cerveau?
Oui, alors la citadelle intérieure, c'est une référence stoïcienne. C'est ma culture philosophique qui ressort, mais qui peut être d'un grand secours à ce moment-là.
Pensez-y si un jour vous êtes en prison, faites de la philosophie avant.
Voilà, lisez Marc Aurèle. C'est Marc Aurèle, c'est une citation de Marc Aurèle. Faites de ton âme une citadelle imprenable. Voilà. Et la citadelle intérieure, c'est un livre connu de Pierre Hadot, le spécialiste de la philosophie antique. Mais oui, moi, je le vis comme ça. Je me retranche, je coupe ce qui doit être coupé et je mets en alerte ce qui doit être en alerte. Je me concentre, en fait. C'est une question de concentration des énergies. Et voilà, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça.
C'est très violent, la prison, évidemment. Il y a la maltraitance physique, il y a la lumière en fonction de votre cellule qui ne s'éteint pas la nuit, il y a une voix qui crachote toute la journée comme dans une mauvaise télé-réalité, d'autant plus que vous êtes filmé. Il y a aussi, pour se réveiller, des chants d'hiver et parfois même... La prison russe, ça ressemble à ce que l'on imagine de la prison russe?
Je sais pas ce qu'on imagine de la prison russe.
Si, quand même.
Mais vous imaginez ça. Oui, alors donc là, l'hymne... En plus, je le trouve magnifique, moi, cet hymne. Mais là, j'ai changé un peu de rapport. Oui, évidemment que là... on est dans des conditions qui sont faites pour... ce que je comprends, c'est qu'on essaye d'agir hein, sur mon moral, sur mon mental, et je suis dans des conditions qui sont faites pour casser, en fait, c'est ça. C'est une machine à broyer. Donc la lumière, en effet, toujours, les brimades, les fouilles des gardiens au milieu de la nuit, les violences, toujours possibles. Le fait, ce que j'essaye de décrire quand même surtout, c'est la difficulté de vivre à 10 personnes dans à peu près 25 mètres carrés. C'est ça le quotidien, mon quotidien. Donc il y a les mafias intérieures, extérieures qui se mélangent. Et puis bah, il faut arriver à composer avec les bandits que j'ai autour de moi, mais nouer des amitiés aussi. Voilà, c'est tout ça qui se passe dans une cellule avec des belles rencontres aussi malgré tout. Et je crois que même dans les pires conditions, il y a des instants et des moments de beauté.
Ça dure 71 jours, oui. Johan Barbereau. 71 jours, aujourd'hui, plusieurs années après, puisque là on est en 2015, 2016.
C'est en 2015, ouais.
2015, ouais, ouais, ouais. Oui, puisqu'il va y avoir la suite de l'histoire en 2016. 2015, est-ce que vous en avez gardé quelque chose 5 ans après, encore aujourd'hui?
Ah oui, et pour toujours, ça c'est sûr. Ce que j'ai gardé aussi très fort là, ce que j'étais en train de penser, c'est la suite. Je vais être interné dans un hôpital psychiatrique après pendant 3 semaines de force. Hein, pas parce que je suis devenu fou, mais parce que ce que j'ai sur le dos
toujours dans la même logique
continue à me briser. Voilà. J'en ai gardé en fait. C'est ces portraits en fait que j'ai essayé de dresser de mes camarades de cellule et puis aussi des gens que j'ai rencontrés dans l'hôpital psychiatrique. J'en ai gardé quelque chose comme je sais pas comment décrire ça. Des rencontres, une humanité. Comment dire, le pire et le meilleur de l'humain vécu, ramassé en quelques semaines. On pourrait dire quelque chose comme ouais. ça.
Parce que j'avais déjà interviewé des gens qui sortaient de prison, par exemple, qui disaient que quand ils entendaient une clé dans une serrure ou quand ils voyaient une porte fermée, ils pouvaient avoir des grandes angoisses ou même, on y pense moins, quand ils voyaient, par exemple, des voitures défiler à toute vitesse, quand ils voyaient un périphérique avec plein de voitures, ils avaient des sensations de vertige après avoir vu aussi peu de monde en plusieurs années, plusieurs mois. Vous, ça vous a laissé comme ça des traces d'angoisse ?
Oui, sûrement. Pendant un moment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant un moment, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai gardé le réflexe de marcher les mains dans le dos. Parce que quand on nous sortait de cellule, il fallait avoir les mains bien, bien visibles dans le dos, sous peine d'être cravaché. Et donc, j'ai gardé ce genre d'attitude physique de soumission. Vous voyez, quand on sort, qu'on est extrait de la cellule, baisser la tête, garder les mains dans le dos. Le corps imprime ces choses-là, et puis s'en débarrasse après. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais que ça puisse ressortir dans un sommeil agité 5 ans plus tard, oui, ouais. Oui, bien sûr.
Et puis finalement, en attendant votre procès, vous devez rester chez vous en liberté surveillée avec un bracelet électronique. Il m'arrive encore de le sentir. Écrivez-vous et vous allez vous enfuir. La première fuite de Johann Barbero, on en parle juste après avoir écouté ensemble la chanteuse allemande Ayo, I am in love sur France Inter. C'est pas faux. Sur France Inter. Vous écoutez chacun sa route et c'est le moment où vous nous racontez votre ailleurs, un moment qui vous a marqué. Aujourd'hui, puisque nous savions que vous seriez avec nous, Johann Barbero, Estelle Gapp, auteure de Je t'aime affreusement, nous raconte son passage en Sibérie.
Moi, je suis pas une grande voyageuse, je suis pas une globe-trotteuse. Je suis plutôt un peu trouillarde. J'ai du mal à sortir de mes habitudes. Et puis en fait, je me suis passionnée pour l'histoire d'une petite fille, l'une des trois enfants de Marina Tsvetaeva, qui est une des deux grandes poétesses russes du XXe siècle. Marina Tsvetaeva s'est suicidée en 1941. à l'entrée des Allemands en Russie. Elle a eu peur, elle s'est suicidée. Et sa fille, qui alors a 30 ans, est arrêtée par la police stalinienne. Elle est torturée et elle va être envoyée pendant 16 ans au goulag. Elle s'appelle Ariadna Efron. Son petit surnom, c'est Alia. Pour moi, aller au bout de son histoire, c'était mettre un pied en Sibérie et mettre un pied dans un goulag, là où elle a vécu 16 ans de souffrance. J'ai eu la chance immense d'être invitée par une mission scientifique. On était à Noël 2018 et autour d'un café, ici même, la table d'à côté. Et je dis, je viens. C'était un coup de folie comme ça de me dire, je vais sur les traces d'Ariadna Efron. Rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Je m'imaginais un peu ermite sous ma tente, avoir beaucoup de recul. Et en fait, non. J'ai eu l'impression que dans ma petite vie d'avant, je vivais par procuration dans les livres. Je suis une grande dévoreuse de livres. Et là-bas, je me suis rendu compte que j'étais dans du réel, à 3000 km de Moscou, à 5000 km de Paris. Et que là, j'ai perdu tout repère. Je parlais pas russe, évidemment. J'avais pris quelques cours, mais qui ne me permettaient pas du tout de me débrouiller. Donc tout à coup, je me suis sentie isolée, alors que moi, j'ai l'impression que je suis une femme de mots, que j'aime les mots. Et je m'étais dit, partout où j'irais, je pourrais communiquer. J'aime les gens, j'aime rencontrer les gens. Donc je me disais, j'aurais le contact facile, il n'y a pas de problème. Je me faisais confiance là-dessus. Et en fait, arrivée là-bas, j'avais plus les mots. Tout à coup, je me sens très seule. Je suis nourrie, remplie de mots et j'arrive pas à les communiquer, j'arrive pas à les échanger. Je suis partie là-bas avec 2 kilos de papier, mais non. La littérature, quand vous êtes au milieu de la toundra, c'est pas du tout l'urgence, c'est pas du tout... J'étais complètement à côté de la plaque. Et je savais pas ce qui m'arrivait. Je me dis toujours, je suis partie 3 semaines et j'ai mis 3 mois à m'en remettre. Parce que moi, je suis une littéraire, je n'avais plus les mots. Maintenant que j'ai retrouvé le réel en Russie, le réel ici à Paris me fait moins peur. Maintenant, je crois que je serais prête à partir au coin de la rue. Là, on me propose une aventure folle. Je serais prête à suivre.
Et on retrouvera Estelle demain, qui nous décrira la Sibérie. Nous sommes avec Johan Barbereau, qui a écrit « Dans les geôles de Sibérie ». Vous écoutez France Inter. Et c'est le moment où on parle de fuite, d'évasion, puisque ça fait déjà des mois, Johan Barbereau, à ce moment-là de l'histoire, que vous êtes en liberté surveillée avec un bracelet électronique. Et vous vous dites « Je vais partir ». À quel moment vous vous dites « Je vais m'évader » ?
Oh, bon, très tôt, dès le deuxième jour en prison, ouais, c'est-à-dire même dès la prison, même si c'était impossible, hein, j'étais dans une prison de haute sécurité, donc. Mais je crois que le prisonnier, et surtout celui qui est là pour des raisons complètement iniques et qui est innocent, je crois que la première idée qui lui passe par la tête, c'est comment on s'enfuit. Donc dès mon premier jour, je pense. Et puis quand vous me demandiez que comment on arrive à tenir, peut-être parce qu'il y a l'idée de la fuite et de l'évasion. Donc là, je passe par l'hôpital psychiatrique, je fais un an de bracelet électronique. Ouais. Donc je suis chez moi, mais dans des conditions alors très strictes quand même. Hein, c'est pas le bracelet électronique forcément que qu'on connaît en France, je pense. C'est-à-dire que j'ai l'autorisation de sortir de chez moi simplement 1 heure par jour, dans un périmètre très limité. Je suis tout le temps suivi, j'ai pas le droit à un téléphone. Donc bon, je suis obligé de ruser pour avoir des contacts avec l'extérieur. Et puis dès que j'ai la possibilité d'avoir une connexion internet discrète, je commence à regarder les cartes satellites, je commence à me renseigner et là à monter plusieurs plans en fait. Il y a 2 plans. Il y en a un où je pars du côté de la Mongolie, c'est le plus proche. La frontière mongole est la plus proche, ce serait le plus logique. Et puis le deuxième plan, c'est d'aller jusqu'à Moscou, donc faire les 5000 km. C'est plus risqué peut-être en apparence, pas forcément. C'est plus facile de se débarrasser de moi dans les montagnes, hein, de me mettre une balle dans la tête et de me laisser manger par les ours et les loups. Mais le chemin est beaucoup plus long, évidemment, si je vais du côté de Moscou.
Et vous avez une idée dingue pour faire les 5000 km qui vous séparent de Moscou ?
Ищите попутчиков на Блаблакар и путешествуйте дешевле. Скажем, вам нужно куда-то съездить, но цены на билет заставляют подумать дважды.
Vous avez peut-être reconnu Blablacar.
Blablacar en russe. C'est la publicité de Blablacar en russe, oui.
Puisque vous décidez de faire du covoiturage. Alors quand même préciser, parce que je pense que nos auditeurs se demandent comment vous avez fait avec votre bracelet électronique. En l'occurrence, vous l'avez entouré d'aluminium pour qu'il ne puisse plus vous retrouver, en tout cas qu'il ne puisse plus...
Alors oui, c'est ça. Entourer un bracelet électronique d'aluminium permet de couper le signal. Alors sauf que...
Je sais pas s'il faut le dire très fort.
Si, si, il faut le dire. Mais alors non, pour les prisonniers, attention, mais ils le savent très bien, je pense. Si vous mettez de l'aluminium autour du bracelet, ça coupe le signal. C'est comme si vous aviez coupé votre bracelet. Donc si vous êtes surveillé de près, bah, très vite, les policiers qui vous surveillent vont voir que ça clignote et ils vont venir chez vous. Alors moi, ce que je repère, c'est que quand je fais ça un dimanche, eh bien, personne ne vient. Donc en fait, la surveillance, après quelques mois, j'ai sympathisé aussi avec mes gardes, c'est ça qu'il faut dire, c'est tout un processus.
Et oui, ça prend des mois. Hein, ça va,
voilà, j'ai leur confiance et j'ai leur confiance le dimanche. Donc je sais que si je mets ce papier aluminium le dimanche, eh bien, rien ne se passera avant le soir. Donc je peux avoir 10 heures d'avance sur mes poursuivants. Donc c'est ce que je fais. Le matin, j'entoure d'aluminium mon bracelet et puis quelques heures plus tard, je vais carrément couper. Hein. Et puis là, il n'y a plus de signal, c'est fini, je suis dans la nature. Personne ne peut me retrouver et je vais utiliser mon téléphone. C'est-à-dire que on sait qu'un téléphone, c'est un outil de pistage, de traçage, de surveillance, mais bien utilisé, c'est-à-dire avec une carte SIM anonyme, un nouveau téléphone qui n'a jamais été repéré, eh bien, on est complètement anonyme. Donc, on voyage en Blablacar, bien sûr, en covoiturage, parce que en cas de contrôle sur la route, c'est le chauffeur qui est contrôlé, pas les passagers. Et puis surtout, on se fond dans le paysage comme ça. Mmh. Voilà.
Mais vous ressentiez quoi à ce moment-là? Parce que 5000 kilomètres, ça se fait pas en deux heures, hein, bien sûr. Donc, comment vous vous êtes senti?
Un incroyable sentiment de jubilation.
Ah oui?
Et de liberté.
Pas de peur. Parce que moi, j'étais pétrifié pour vous. Hein.
Mais si, mais c'est les deux. D'où la citation de Jean Kelevich, dont on a commencé l'aventure, la vraie, c'est pas les petites péripéties des écrivains voyageurs, pardon. Mais c'est le moment où on met vraiment les choses en jeu, où là, la vie est en jeu. Et c'est là qu'on a les joies les plus intenses aussi sur la route, les peurs les plus grandes, mais aussi les joies les plus grandes. Donc ça a été 10 jours, en fait, de joie intense. Le début, j'étais plutôt pétrifié, mais passé les premières 24 heures, je me suis jamais senti aussi libre.
Ah ouais ?
Oui.
Ah, c'est fou. Vous arrivez donc à Moscou, apparemment dans une grande forme, et vous prévenez l'ambassade française que vous êtes là, au dernier moment, ils vous font rentrer, ils vous planquent dans une petite chambre, et là commence un autre enfermement assez surréaliste lui aussi, puisque très vite les autorités françaises préviennent les Russes. Ils n'ont pas très envie de se les mettre à dos, et vous vous retrouvez assigné à résidence, impossible pour vous de sortir de l'ambassade.
Et même d'une petite pièce, en fait. Hein. Je suis enfermé dans 10 mètres carrés avec peu de lumière parce que les rideaux doivent rester fermés. Les Russes savent, mais par contre, le personnel de l'ambassade ne doit pas savoir. Alors, pourquoi les Russes savent? Parce que les Français ont peur, en fait, hein, simplement, dès le départ. Et puis, ils se disent qu'ils vont entrer en négociation. Là, on est en scénario guerre froide. On essaye de m'échanger. Voilà. Donc, les Français entrent en négociation avec les Russes. Et contre qui ou quoi on peut m'échanger? Et je ne le sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des tractations pendant un an.
Apparemment, on a du mal à vous échanger.
Oui, apparemment, j'ai une valeur quand même un peu limitée. Parce qu'au bout d'un an, je vais quand même voir des agents de la DGSE, je raconte cet épisode. L'exfiltration est préparée, donc on me grime, je me dis, là voilà, la jubilation recommence un peu. On me prépare, on me grime, il y a un plan qui commence à se faire avec des agents de la DGSE, mais... Arrivent les élections présidentielles, donc en gros, bah voilà, on est à l'époque fin du mandat de François Hollande. Je cite pas du tout dans mon livre les noms des présidents, des ministres, parce que c'est pas important pour moi, ils sont tout à fait interchangeables, mais c'est pour situer, pour les auditeurs. Donc probablement, François Hollande, à ce moment-là, avait sans doute décidé, en fin de mandature, de prendre le risque de tenter une exfiltration, mais le suivant a visiblement pris une toute autre décision, puisque tout s'arrête, et là je comprends que je ne vais pas être exfiltré, et pire que ça, j'ai un journaliste à ce moment-là sur le dos, enfin, qui est plutôt une bonne chose. Hein. C'est Tristan Valex, on peut le citer, qui a fait un long reportage sur mon affaire dans Envoyé spécial, qui fait partie aussi des gens qui ont enquêté sur mon affaire et qui ont été importants pour moi, parce que quand je suis sorti de tout ça, il s'agissait aussi de me laver de ces accusations infamantes. Et donc, que moi je clame mon innocence, c'est une chose, que mes proches le fassent, c'en est une autre, déjà, et puis que quelqu'un de tout à fait extérieur, un journaliste indépendant, le dise, évidemment c'était très important. Pardon, je suis en train de digresser. Mais oui, donc à ce moment-là, ma situation va être révélée au grand jour, et toute chose égale par ailleurs, je risque de me retrouver dans la situation d'un Julian Assange, donc je ne suis pas un lanceur d'alerte, ni un espion, mais si ma situation est révélée au grand jour, les Russes ont averti. Fini les négociations, votre gars, il restera enfermé et pour toute la vie s'il le faut. Ouais. Donc là, ce que je risque en fait, c'est ça, c'est de me retrouver comme un fantôme dont personne veut s'occuper, planqué dans une ambassade.
Et vous y restez un an dans une ambassade.
C'est déjà trop.
C'est donc, déjà énorme.
Donc l'appel de l'aventure, la vraie, me
à
reprend.
Nouveau. Et vous vous dites, je vais fuir, sachant que trois mois après votre première fuite, vous avez appris que vous étiez condamné à 15 ans de colonie pénitentiaire en Russie. Donc, faut vraiment pas que vous vous fassiez attraper à ce moment-là. Effectivement, vous allez fuir une deuxième fois. On racontera ça juste après avoir écouté ensemble Clou, comme au cinéma. Johann Barbero, votre aventure pourrait être un scénario de film, sans aucun doute. Eh bien, elle, la chanteuse Clou, elle aimerait vivre comme au cinéma. Vous écoutez France Inter.
Tant pis si c'est faux, moi je veux jouer. Le cœur battant, la gorge nouée. Me révéler sauvage. J'ai le texte inventé. Abîmer mon image. J'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est tant pis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma. En plan américain avec la musique qui marque mes
au cinéma sur France Inter. Notre invité Johann Barbero est plutôt comme en littérature, si l'on peut dire, puisque on en parlait il y a quelques minutes, il réussit à s'enfuir. Il réussit à s'enfuir de cette ambassade française à Moscou, où il est assigné à résidence depuis déjà un an. Vous commencez à raconter, quand vous racontez ça dans votre livre, vous le racontez à la troisième personne du singulier. Vous parlez de vous en utilisant un autre prénom à ce moment-là. Pourquoi ?
Parce que c'est vrai, j'ai changé d'identité à ce moment-là pour m'échapper, mais ce n'est pas un artifice littéraire quand je parle de moi à la troisième personne, que je deviens Landoff. Landoff, c'est ce nom que j'écris dans le livre, c'est un anagramme de Voland. Voland, c'est le personnage du diable dans Le Maître et Marguerite, qui est une référence constante dans le livre, le grand livre de Bulgakov. Un diable positif hein, dans Bulgakov qui aide notamment les amoureux à s'en sortir. Mais je crois que oui, vivre comme dans un roman, comme dans un film, C'est une manière aussi sans doute de transcender quelque chose, c'est une manière de sortir de soi pour aller au bout du risque, au bout de l'aventure, et c'est une manière de passer à l'action en fait. C'est peut-être parce que je me prenais pour un personnage de roman que j'en ai vécu un. Et que j'en ai écrit un, parce que peut-être que c'est quelque chose comme un roman que j'ai fait finalement.
Exactement. Et si vous voulez connaître la suite ou tous les détails, ça s'appelle Dans les geôles de Sibérie. Johann Barbereau, j'ai une mission pour vous. Chaque jour, on termine cette émission, chacun sa route, avec le portrait d'une exploratrice. Et cette semaine, on fait celui d'Harriet Tubman. Alors lundi, on a raconté comment elle a fui son Maryland natal, où elle était esclave. Hier, comment par la suite, elle a aidé à la fuite de dizaines d'esclaves, ce qui lui vaut le surnom de Moïse Noir. Johann Barbereau, vous êtes... Pour les prochaines minutes, Harriet Tubman. Sa tête est mise à prix et c'est de plus en plus compliqué d'échapper aux chasseurs d'esclaves. Surtout que depuis 1850, la loi s'est encore durcie et les maîtres peuvent pourchasser leurs esclaves en fuite dans tous les États, y compris les États abolitionnistes du Nord. Il faut donc partir beaucoup plus au Nord, au Canada, et le chemin est long, sinueux, beaucoup plus dangereux. Pour autant, Harriet Tubman n'abandonne pas. Elle ne fera évader ses parents que 7 ans plus tard, en 1857. Il faut dire que comme son nom ne passe pas inaperçu, elle est aussi contactée par les abolitionnistes les plus en vogue, qui l'accueillent volontiers.
Quand je pense aux gémissements, aux larmes et aux prières que j'ai entendues dans les plantations, et quand je me rappelle que Dieu entend nos prières, j'ai le sentiment que le temps de Dieu est proche.
1861. Aux États-Unis, la guerre de sécession éclate entre États du Sud pratiquant l'esclavage et États du Nord abolitionnistes. Au Nord, de plus en plus de Blancs épousent la cause des abolitionnistes, au Sud, c'est l'inverse. Après 2 ans, une proclamation d'émancipation entre en vigueur. Les personnes de couleur sont enfin autorisées à s'engager dans l'armée. Alors Harriet Tubman, la Moïse Noire, est approchée. Elle qui connaît très bien les plantes, elle est infirmière mais aussi cuisinière. Elle veut encore être davantage être sur le front. Elle sent bien que même les abolitionnistes ne font pas totalement confiance aux personnes de couleur, qu'ils doutent de leur engagement et de leur courage, mais c'est son combat et personne ne l'empêchera de quoi que ce soit. Elle est donc espionne, mais aussi soldate. Et elle prend la direction d'une troupe, elle est la seule femme, et avec 150 autres soldats, il se donne pour mission de libérer plusieurs centaines d'esclaves en Géorgie.
J'ai entendu leurs gémissements et leurs soupirs, et vu leurs larmes, et je donnerai chaque goutte de sang dans mes veines pour les libérer.
Il fait nuit. L'attaque doit prendre les propriétaires par surprise. Ils sont sur l'eau, dans la pénombre, et attendent leur heure.
Je n'abandonnerai pas, que ce monstre soit anéanti.
Soudain, ils attaquent. Et les esclaves fuient par dizaines pour les rejoindre à travers la rivière. Par dizaines, puis rapidement, par centaines. 750 esclaves sont libérés. Elle est encore aujourd'hui une des rares femmes à avoir mené aux États-Unis un groupe armé.
Il y a 2 choses auxquelles j'ai droit, ce sont la mort et la liberté. L'une ou l'autre que je veux avoir. Personne ne me ramènera vivant. Je lutterai pour ma liberté et quand le moment sera venu pour moi de partir, le Seigneur les laissera me tuer.
En 1865, l'esclavage est enfin aboli dans l'ensemble des États-Unis. Harriet rentre chez elle, à New York, où habitent désormais ses parents. Débute alors une bataille de 30 ans pour qu'elle obtienne une compensation pour ses services pendant cette guerre. Une compensation financière dont elle aurait bien besoin tant elle va vivre désormais dans la pauvreté. La suite, demain. Et le podcast en intégralité de tout ce que vous entendrez cette semaine disponible... Demain, ou après-demain, ou après-après-demain, on verra. Johann Barbereau, cette émission s'appelle Chacun sa route. Chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin?
Ah, le message, je vous souhaite d'être follement libre comme je l'ai été au moment où je risquais sans doute ma peau.
Ça vous parle bien ce que vous avez lu tout à l'heure. Il y a deux choses auxquelles j'ai droit, ce sont la mort et la liberté.
Oui, bien sûr. Et puis j'adore qu'on me fasse lire des textes de femmes aussi, parce que je crois que écrire, c'est aussi être de tous les sexes, de toutes les couleurs et de toutes les religions. Et donc oui, évidemment, ça résonne très fort.
Gardons ça aussi, tiens, comme message à notre voisin. Merci beaucoup, Johan Barbero. Chacun sa route. Épisode 23, revenez demain. Demain, on va s'intéresser à la géologie des sous-sols et on ira creuser dans les nappes phréatiques. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir l'ancienne candidate à la présidentielle, l'ancienne magistrate, aujourd'hui avocate, Eva Joly. Merci à Louise Cognard, Céline Dubois, Thomas Somaro, Vera Louderide et à Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte comme chaque jour. Un souvenir musical lié au voyage, vous nous le racontez au 01 56 40 68 68. Faites comme David aujourd'hui.
Alors, il y a quelques années, je travaillais au nord de la Bretagne et j'avais donc un voyage en voiture à faire qui devait durer entre 1h30 et 2h. Et j'ai mis un disque de Thelonious Monk qui s'appelle Bolivar Blues, persuadé que j'allais faire un voyage serein et calme, sans excès de vitesse. Là, je me suis aperçu au milieu de la chanson, en sachant que c'était une Twingo, donc qui à 120 km/h on vole quasi, que j'avais vraiment accéléré.
Bonjour Jean Morel, qui danse dans ce studio?
Déjà.
Extrêmement détendu.
Bah oui, ça va, je suis heureux. J'ai plein de beaux disques. On va partir du côté de la Jamaïque dans Haute Fidélité, alors ça me rend très heureux.
Apparemment.
Bah ouais.
Haute Fidélité dans quelques secondes sur France Inter.